Quatrième chapitre.
La guerre suspend le projet. 1939, état général de la garde républicaine et de ses casernes.
Devant l'effort insuffisant des départements, la loi de finances du 31 mai 1933 autorisa les municipalités ou toutes autres collectivités publiques ou privées étrangères à l'arme à financer la construction des casernements de la garde républicaine mobile. Bien qu'un certain nombre de conventions furent passées en ce sens, le gouvernement par la loi de finances du 22 mars 1934, mit, dès l'année suivante, le casernement à la charge de l'État. En 1939, l'effectif de la garde républicaine mobile avait atteint 20 500 hommes, pour un effectif théorique de 27 000. Elle était articulée en 163 escadrons logés dans 236 casernes aménagées ou construites spécialement. Les conditions d'installation progressive des unités de gendarmerie ainsi que le choix des résidences se firent principalement en fonction des facilités d'aménagement des bâtiments existants, mais également en fonction de la disponibilité de terrains constructibles. Cette incontournable contrainte ne permit pas toujours de prendre en compte les notions d'articulation entre unités ni celles de leur répartition en vue de leur emploi, plaçant même au second plan l'organisation défensive des nouvelles casernes. Comme les autres légions, la 12e Légion de garde républicaine mobile se heurta à cet épineux problème lorsqu'en novembre 1937 elle s'installa à Toulouse.
1945, état général de la garde et de ses casernes.
Cela faisait tout juste 2 ans qu'elle avait pris possession d'une façon provisoire des immeubles du Boulingrin lorsque, le 3 septembre 1939, la France entra en guerre contre l'Allemagne. L'armistice du 25 juin 1940 chassait la garde de la zone nord pour ne conserver que 6 000 hommes en zone sud, articulés en 48 escadrons et formant d'abord 3, puis 6 légions en 1941. L'invasion du 11 novembre 1942 devait encore l'amoindrir pour regrouper ensuite ses restes en force de maintien de l'ordre avec les GMR et la milice française. Reconnue par le gouvernement provisoire de la République française dans une ordonnance signée à Alger le 5 juillet 1944, la « garde », qui prit l'appellation de « garde républicaine », le mois suivant, fut à nouveau fusionnée avec la gendarmerie en janvier 1945. Elle retrouva à cette occasion son ancien statut, défini par le décret du 10 septembre 1935. Le gouvernement décida de lui faire réintégrer ses anciens casernements. À la Libération, un état général des casernes fut dressé. Plusieurs d'entre elles avaient été détruites et de nombreuses autres avaient été plus ou moins gravement endommagées par les bombardements. Cependant, celles qui n'avaient pas été détruites étaient occupées par l'armée, les administrations et la population. Eu égard aux faibles ressources budgétaires du moment, il ne pouvait être envisagé de nouvelles constructions. Le problème du casernement ne devait cependant pas obérer l'action de la garde et il était urgent d'en reconstituer ses effectifs. Constitué de 6 000 hommes en 1944, il fut décidé d'augmenter progressivement ce corps pour atteindre 12 000 hommes en 1950, afin de former 85 escadrons. Ces nouvelles unités réintégraient, non sans mal, les anciennes casernes d'avant-guerre qu'il fallut dans un premier temps vider de leurs occupants. Leur récupération s'avéra être une tâche des plus délicates et difficiles, car c'était sans compter sur la résistance des occupants dont beaucoup avaient tout perdu. En 1950, 32 casernes de la garde républicaine restaient toujours occupées par la gendarmerie départementale, 70 autres l'étaient par les cadres de l'armée et des civils et 44 étaient entièrement occupées par la population civile. Cela représentait 47% du parc, cette occupation privait la garde d'environ 3 000 logements. C'est dans ces conditions que la réintégration de plus de 50% des nouvelles unités de garde républicaine mobile s'effectua au hasard des résultats de la récupération et non en fonction des besoins d'emploi.
1945, état général des casernes de gendarmerie à Toulouse.
La guerre n'avait pas profondément modifié le casernement de la garde et de la gendarmerie départementale à Toulouse. Le terrain du domaine de Courrèges acquis pour la construction d'une caserne leur étant destiné ne fut pas abandonné pour autant. La Seconde Guerre mondiale empêcha simplement la mise à exécution du projet. Durant cette période, une grande partie des terres fut mise à la disposition du 24e Régiment d'artillerie lourde et du 117e Régiment d'artillerie pour servir de jardin potager. Un package y fut également réservé pour le service vétérinaire militaire. Le reste était occupé par 2 sociétés sportives. La garde restait cantonnée dans les immeubles du Boulingrin loués à l'Office des habitations bon marché, tandis que la gendarmerie départementale logeait toujours dans les casernes départementales de Saint-Michel-Nord place du Parlement, adossée au palais de justice de Saint-Michel-Sud situé place Lafourcade. Le seul changement résidait dans ce qu'il fut appelé les « brigades satellites ». Leur création fut décidée le 30 novembre 1943, pour faire face à l'augmentation de la population toulousaine. C'est dans ce contexte que la brigade de Toulouse-Saint-Pierre, route de Lombès, à l'effectif de 6 fonctionna officiellement dès le lendemain. La brigade de Toulouse-Croix-Adorade ouvrit ses portes le 21 mars 1945. Ramonville-Saint-Agne se mit à disposition du public le 1er mai 1945. Pimbalma, qui prit par la suite l'appellation officielle de Balma, explorait sa circonscription dès le 14 mai 1945. Elle devait s'installer le 14 novembre 1945 au château de la garde à Balma. La brigade des recherches qui travaillait officieusement depuis le 15 avril 1946 fut officiellement créée le 31 juillet 1946. Dès la fin de l'année 1945, le lieutenant-colonel Rouillet, commandant la 5e Légion de la Garde républicaine mobile, ex-6e Régiment de la Garde, adressait un rapport au ministre de la Guerre pour lui signaler l'urgence de reprendre le projet de construction. L'augmentation de la population toulousaine et le manque cruel de logements avaient conduit les autorités locales à demander au génie l'autorisation de construire sur le terrain une centaine de baraques afin d'y loger des familles. L'occupation devait durer entre 3 et 4 ans, mais il ne fut donné aucune suite favorable à cette demande aux conséquences incertaines. Hélas, cette demande allait se heurter à bien d'autres difficultés.